Chronique de politique intérieure numéro 11. Chers auditeurs de Radio Silence, je vais vous parler aujourd'hui de la réaction en chaîne eugéniste. J'emprunte pour ma chronique d'aujourd'hui, j'espère pas trop longue, beaucoup au site de monsieur le professeur Jacques Testard que j'ai trouvé pertinent dans mes recherches. C'est l'anglais Galton, cousin de Darwin, inventant le substantif eugénics en anglais, qui le définit en 1883 comme la science de l'amélioration de la race par toutes les influences, puis en 1904 par l'étude des facteurs socialement contrôlables, élevant ou abaissant les qualités raciales des générations futures, aussi bien physiquement que mentalement. La théorie darwinienne, de nos jours démontrée irrévocablement fausse, fonde donc l'expansion de l'eugénisme du XXe siècle comme une évolution vers l'absurde. La fin du XXe siècle a vu le monde euro-anglo-saxon parvenir à une certaine maîtrise de la procréation par deux moyens essentiellement, la contraception et l'assistance réputée médicale à la procréation. Tout d'abord, la contraception limita les naissances naturelles par quatre moyens, la pilule féminine généralisée depuis les années 60, puis la masculine plus récente, 2. L'avortement, 3. L'ablation des organes génitaux féminins et masculins, 4. Le cortex légal foisonnant, favorisant ces pratiques généralisées, bridant la reproduction naturelle. Cette contraception déboucha prioritairement et très vite à grande échelle sur un eugénisme industriel dit négatif, et ce, depuis 1907-1908, certains disent même 1902, puisqu'alors des dizaines de milliers d'individus ont été stérilisés, par exemple en Suède et aux États-Unis, à l'époque, afin d'empêcher la procréation par des couples d'humains jugés inaptes ou incapables, alors moi je demande par qui, de faire des enfants présumés de mauvaise qualité, ah ouais laquelle ? Wolfgang Amadeus Mozart n'aurait donc jamais été autorisé à naître de parents, dit-on, syphilitiques et alcooliques. Le tri des enfants, nés viables, mais jugés trop faibles pour être autorisés à vivre, comme chez les Spartiates, remonte aux Grecs et même à la nuit des temps. Il a toujours fait partie, cet eugénisme, à petite dose, des civilisations humaines. Les régimes communistes, avec Lénine notamment, dès 1917-1921, ont préféré, eux, détruire les élites pour ne laisser subsister qu'un peuple de supposés rustres, soumis par la force de petits commissaires politiques à la nomenclatura autoproclamée. Deuxièmement, l'assistance réputée médicale à la procréation, qui intervient pour environ 10% des couples victimes d'infécondité par trois grandes méthodes. Le métissage, qui paraît-il réussit très bien en France, qui donc n'est pas raciste. 2. L'insémination artificielle. Avec le sperme du mari, encore ça va, naissent 3600 enfants. Avec le sperme d'un donneur masculin non identifié, d'un tiers donc impossible à connaître, s'ajoutent 900 enfants, donc par an 4500 enfants dans une vingtaine de centres. Et troisièmement, la fécondation in vitro en éprouvette, comme on dit au départ, qui permet, elle, la naissance de 9000 enfants par an dans une centaine de centres. Cette AMP fait donc naître actuellement plus de 13500 enfants artificiellement conçus, soit environ 2% des naissances françaises annuelles, donc 675 000 selon Jacques Testard. Elle déboucha progressivement depuis 25 ans sur un eugénisme dit positif, dont le but est de favoriser les supposés bons gènes. Les premières expériences furent par exemple aux États-Unis les bébés Nobel, où des vieillards furent sollicités pour tenter d'obtenir des bébés plus intelligents que les autres. Sur quels critères ? À Singapour, où le Premier ministre distribua des primes aux parents diplômés s'ils se mariaient ensemble et faisaient des enfants, ceux qui n'ont pas de diplôme avaient aussi des primes, mais à la condition qu'ils n'en fassent pas. Personne n'étant lésé, tout le monde était content. Enfin, on croit. En Allemagne, où de 1933 à 1945, les nazis ont expérimenté des pouponnières de supposés ariens réputés race supérieure. ce qui les conduisit avec les soviétiques à faire exécuter Kamrer, qui venait de démontrer sa HCA, contrariant toute stabilité raciale. Outre toutes ces dérives, et j'en passe, du fait du principe mondialement ordonné de l'anonymat légal du don de sperme, à moins qu'on ne le leur apprenne, 20% au moins d'enfants, rien que français, nés artificiellement, ne peuvent savoir s'ils sont nés de leur père dit social ou d'un autre. Quand bien même ils l'apprendraient, ils n'auraient aucun moyen d'identifier leur père biologique du fait du blocage légal servant l'eugénisme mondialement décrété en violation de la Déclaration des droits de l'enfant où l'ONU affirme, aux principes 3 et 6 notamment, que tout enfant a le droit de connaître et d'être protégé par ses parents implicitement biologiques sans jamais, en bas âge, pouvoir être séparé de sa mère, sauf dans les cas très graves. Il paraît donc évident que l'anonymat de la paternité génétique contredit cette déclaration, certes pompeuse, de l'ONU, peuplée de bonnes intentions, qui reste purement théorique, quand même. L'absence de mention à l'état civil, ça c'est plus grave, détruit la traçabilité humaine, alors qu'elle est exigée dans le monde animal. Le mariage de futurs époux va dans l'avenir devenir sacrément ardu. Pour éviter toutes les dérives prévisibles et prévues, Jacques Testard a donc proposé le principe d'interdire le diagnostic génétique pré-implantatoire, TPI, qu'il a identifié comme étant la clé de l'eugénisme moderne, outrancièrement appliqué, dit-il. Le marché, dit-il, de la santé est illimité, parce que les citoyens sont presque tous demandeurs, de même que si l'on découvrait une technique pour devenir immortel, tout le monde serait preneur. La dynamique interne de la recherche est donc de toujours produire davantage de techniques et de publications scientifiques, se greffent là-dessus les intérêts particuliers des chercheurs qui trouvent les techniques, ceux des médecins qui les diffusent, ceux de l'industrie qui fabrique des gadgets adaptés à ces techniques, et ceux des États qui supportent généralement mal d'être en retard d'une découverte ou d'une application. Tout cela va dans le même sens et ne peut pas rendre optimiste du tout. Mais les lois prises aux ordres des comités, associations, organismes mondiaux, tous eugénistes, vont dans le sens de la barbarie, en application de théories fumeuses, toutes démontrées comme fausses, mais qui continuent seules d'être enseignées et appliquées. L'antidote existe pourtant, c'est la vérité. Pendant ce temps, les 5 millions d'humains, déjà obtenus artificiellement, arrivés en 2013, qui correspondent à la population du Colorado, aboutiront en 100 ans, au taux de 2%, qui paraît faible, à une population mondiale de 36 millions d'habitants sans ascendant connu. Au taux de 4%, ce serait 252 millions, soit le quasi-remplacement de la population des USA. Et au taux de 6%, à 1,7 milliard d'habitants. La multiplication des lois liberticides et homosexualistes a comme finalité d'accroître le taux, de 2 à 6%, des fécondations sélectionnées dans les labos. Le réacteur nucléaire eugéniste non seulement est privé légalement du frein de la vérité, mais les lois encouragent vers l'anéantissement de toute vie libre selon la sélection naturelle. Dans moins de 100 ans, le monde ne sera plus peuplé que d'êtres sans parents connus d'eux, sauf des fonctionnaires 1 et 2, qui les auront fait élever par les États soi-disant en progrès. Le taux apparemment faible des 2% relevé par Jacques Testard ne doit pourtant pas tromper. Comme en finance, il s'agit d'une creeping inflation, inflation rampante, qui aboutit mathématiquement pourtant à une progression exponentielle jusqu'à l'explosion finale, garantie de plus par les plus de 300 millions d'humains, exterminés en plus d'un siècle par les moyens barbares d'abord, puis par des apprentis sorciers de laboratoire.